Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, S comme Space Opera, des sons dans l'espace, avec Michel Chion et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Dans l'espace, c'est bien connu, personne ne vous entend crier, on le sait depuis 1979 et le slogan du premier Alien. Personne, sauf peut-être Michel Chion, ça fait près de 40 ans depuis son essai fondateur d'une théorie du cinéma comme art sonore, la voix au cinéma, que ce compositeur de musique concrète et penseur essentiel du cinéma écoute les films comme les médecins, auscultait les patients avant l'imagerie médicale et analyse chaque élément de la bande-son dans son rapport avec les images. Alors qu'est réédité dans une version refondue et complétée sa somme de 1995, la musique au cinéma, celui qui conçoit le cinéma précisément comme une symphonie audiovisuelle revient à un de ses grands amours, la science-fiction, 10 ans après le livre qu'il lui avait consacré au cahier du cinéma, avec des sons dans l'espace, à l'écoute du space opéra. Le space opéra, ce sous-genre de la science-fiction qui nous fait voyager dans l'espace, explorer des planètes et découvrir des civilisations intergalactiques, sous-genre longtemps dédaigné avant que Stanley Kubrick ne lui donne ses lettres de noblesse et que George Lucas en fasse à la fois le plus grand pourvoyeur de mythes des 40 dernières années et la franchise la plus rentable de son temps. Le sous-genre en question est souvent moqué pour son irréalisme, entre guillemets, irréalisme sonore, puisque, comme chacun sait, dans le vide intersidéral, la propagation du son est impossible. Ce petit livre, écrit Michel Chion, est né d'une énigme que me posent non les films mais certains de leurs spectateurs, ceux qui, tout en admettant des ellipses de temps, des places de caméra délirantes et l'effet on the air, on dira tout à l'heure ce que ça signifie, ne nous rappellent au respect du réalisme entre guillemets que dans des cas bien précis, notamment celui du son dans l'espace. Michel Chion est aujourd'hui dans Plan Large pour apporter quelques réponses à cette énigme et explorer avec nous quelques 90 ans de cinéma, de La femme sur la lune de Fritz Lang en 1929 au Premier homme sur la Lune de Damien Chazelle, sorti l'an dernier. En fin d'émission, Fernando Ganzo dirigera lui son télescope sur une étoile des plus singulières, Uma Thurman, qui fait la couverture du nouveau Sofilm. Mais pour l'heure, première étape de notre périple interplanétaire, Altaïr 4 et ses étranges cieux.
Look at the color of that sky.
Yeah, but I'll still take blue.
I don't know. I think a man could get used to this. Grow to love it.
Bosun.
Aye, sir.
You can assemble a tractor.
Aye, aye, sir.
Better check the command mic, Skipper.
Hmm?
Command mic, sir.
Oh, yeah.
Good idea. Chief?
Sir?
You're on command now, Quinn. You keep right at those instruments.
Aye, aye, sir.
Hey, what's this dust coming?
It looks like we're being met.
Bosun!
Aye, aye, sir.
Hold the tractor.
Aye, aye, sir.
Quite a vehicle, huh?
The driver must be a madman.
What driver?
Altair 4, gentlemen. I am to transport you to the residence. If you do not speak English, I am at your disposal with 187 other languages along with their various dialects and sub-tongues.
Colloquial English will do fine, thank you.
Et oui, l'anglais, ça va très bien. Merci, Robbie le robot. Grâce à vous, on peut parler anglais même sur les planètes les plus lointaines. C'est Planète Interdite, 1956, Fred M. Wilcox, qui était plutôt connu pour sa trilogie sur le chien Lassie à l'époque. Film fondateur, Planète Interdite, Michel Chion. Premier space opéra en couleur, en cinémascope, gros voilà. Budget. Oui.
C'est le premier space opéra, je crois, qui bénéficie de moyens pour le décor et pour le scope couleur. Il y en avait eu des très bons films, dont un dont je parle plus longuement, qui est l'attaque des soucoupes volantes, hein, Earth versus Saucer, Flying Saucers, The Sears, mais qui est très bon, mais qui est évidemment, Planète Interdite a marqué une date par la mise en évidence, aussi par le budget, une distribution différente, voilà.
Alors ce qu'on entend très bien ici, même pour ceux qui n'ont pas les images, on est dans une ambiance de science-fiction des années 50, hein, on développera pourquoi, notamment à cause de ces sons qui à l'époque sont littéralement inouïs du spectateur.
Exactement, oui. C'est le paradoxe du son qui vise à figurer le futur, c'est qu'il devient très vite synonyme du passé, représentant d'ailleurs souvent attendrissant du passé. Les sons électroniques vieillissent vite, c'est ce que je constate en faisant la musique concrète, et on me fait plaisir quand on me dit que telle œuvre que j'ai faite au début des années 70 n'a pas vieilli, alors qu'elle est issue des mêmes sources, des synthétiseurs d'ailleurs qui étaient dans cette maison la radio à cette époque-là, parce que j'avais des techniques pour leur donner une sorte de petit cachet personnel, de vibrato personnel. Mais en même temps, il y a de très bonnes œuvres qui utilisent le son jaillissant, tel quel les synthétiseurs ou des générateurs. À l'époque, c'était des générateurs de fréquences. Et je crois que Kubrick a tiré les leçons de ça, c'est quand il a fait 2001. Il a fait l'observation, je crois, hein, je déduis ça de ses partis pris, que les sons électroniques vieillissent très vite, et comme il voulait pas que ça vieillisse trop vite, il a utilisé plutôt la musique instrumentale, parce que la musique de Ligeti est une musique d'orchestre, que ce soit l'extrait de Requiem avec des chœurs ou l'extrait de Atmosphère. Voilà. Et donc, d'autre part, la curiosité de SP Curieux de ce film, Planète Interdite, c'est que volontairement, les sons qui sont d'un couple, Louis et Bébé Baron, on précise pas si ce qu'on entend correspond à une musique qui commente, que les personnages n'entendraient pas, ou bien à des sons qui sont émis par ce qu'on voit. Là, la scène, vous avez passé un extrait, se passe sur la planète elle-même, dont l'air est heureusement respirable, ce qui permet de se passer des scaphandres et tout pour les personnages. Mais les sons, on ne sait pas si c'est les sons du véhicule que conduit le robot, ou autre chose, ou une atmosphère, et cette ambiguïté est assez poétique.
Là, on est sur une planète étrange, hein, cette Altair 4. On a eu déjà des sons, et vous les avez mentionnés, les space opéras précédents, et notamment ce qui se passe sur Terre, avec des invasions de soucoupes volantes ou des visites d'extraterrestres qui nous veulent plus ou moins du bien. Hein. On se souvient du jour où la Terre s'arrêta, avec cette phrase clé dont on ne sait toujours pas le sens, « Klaatu barada nikto ».
Oui, enfin, on sait le sens.
On sait que c'est menaçant.
En fait, c'est dans le film, Klaatu barada nikto, ça sert, c'est une phrase de code qui incorpore le nom de cet extraterrestre venu à la fois sauver la Terre et la menacer. C'est le paradoxe de ce film, puisque c'est un peu comme Dieu qui dit, écoutez, arrêtez de faire joujou avec vos bombes atomiques, sinon je vous détruis entièrement. Ce qui est un peu idiot, mais, et paternaliste. Mais en tout cas, Klaatu, c'est son nom, et ce nom étant prononcé par la jeune femme jouée par Patricia Neal, je crois que c'est elle, à un robot qui est au service de l'extraterrestre, sauvera la Terre, c'est-à-dire lui donnera accès à Klaatu, lui permettra de le ressusciter, parce que Klaatu a été tué par les humains, il faut le ressusciter. Et bref, donc c'est dans le film, évidemment, c'est le code qui sauve la planète.
Parce que ce qui est très intéressant dans votre livre, entre autres des sons dans l'espace, c'est d'abord que vous le faites, vous l'écrivez sur un plan très autobiographique, c'est-à-dire que vous vous souvenez de ce que vous entendiez, vous, à l'époque où on voyait ces films, et vous resituez, par exemple, le son que vont faire les fameuses soucoupes spatiales quand on les figure dans les films des années 50, en fonction de ce qu'était le son de l'époque. C'est-à-dire qu'on peut identifier une voiture par son moteur, un avion à hélice par le bruit de son hélice. Il y a des sons qu'on n'identifie pas encore. Alors, quel va être le parti pris pour montrer le son de cette soucoupe volante qui n'a aucun moyen de propulsion visible?
Eh bien, effectivement, l'idée du son de comme font ou faisaient les enfants, je ne sais pas si maintenant ils le font, pour figurer de manière symbolique, hein, le trajet de quelque chose dans l'espace, trajet continu, c'est un son qui justement ressemble pas à un son de moteur, de vrombissement. Hein. Donc ça nous dit que le moyen de propulsion, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est inédit. Et d'autre part, moi, dans mon enfance, je suis né en 47, il y avait des sons qui étaient encore synonymes de guerre menaçante, c'était les sons des avions à réaction. Hein, qui était militaire, qui n'était pas encore utilisé ou très peu pour les vols civils, tandis que les sons d'avions à hélice, hein, qui pouvaient servir à bombarder, mais qui étaient pour les vols de déplacement, hein, c'était un vrombissement bien distinct, bien caractéristique. Alors dans là où j'étais, à Creil, il y avait une base militaire, pas loin, et les sons d'avions en réaction, ça, étaient légèrement futuristes à cette époque-là, parce que on les entendait pas encore aussi banalement, que ce soit dans la réalité ou dans les films.
Semněník nikdy nebyla! Michale, stůj! Michale, slyšíš? Zachráníme tě!
C'est le début tout à fait fulgurant d'Ikari XB1, film tchécoslovaque de Jindřich Polák. On est en 1963. En France, on l'a vraiment découvert seulement il y a 2 ans. Oui. Puisqu'il était passé à la télévision à l'époque, on a connu un peu sa version américaine, remontée, doublée. Mais la version originale, grâce à Capricci, on l'a découvert il y a 2 ans en salle. Et on est dans un début, que je disais, fulgurant. On a un astronef quasiment en forme de flèche qui nous passe devant à toute vitesse, alors que dans les conventions du space opéra, on a généralement le temps d'observer la majesté de ces vaisseaux qui traversent l'écran, Michel Chion.
Oui, c'est un début effectivement très frappant, la rapidité. Hein. Dans 2001, qui est un film sublime, on garde un côté opératique et majestueux, hein, la lenteur de ce déplacement de Ryukyun. Voilà. Et alors justement, dans l'extrait que vous avez passé pour le son, il y a justement c'est le continuum qu'observent certains films, entre un son qui émanerait de ce qu'on voit, c'est-à-dire le son mythique de la fusée, ça fait cette note tremblante, etc. Et tant, que le spectateur entend comme musique, déjà à l'époque, en raison du fait d'utiliser des intervalles hein, et des rythmes légèrement, assez atonales, hein, atonaux. Et donc, c'est dans une partie de mon livre, j'aborde la question de la figuration d'un espace intergalactique par le fait d'être dans l'atonalisme, c'est-à-dire de se libérer des notes attractives dans le système tonal.
Et donc de la gravité.
De la gravité. Donc il y a une symbolique de la musique atonale comme étant synonyme de non-gravité, qui est codée, qui est culturelle, qui est datée, n'est-ce pas ? Aujourd'hui d'ailleurs, la musique dite d'avant-garde, en grande partie maintenant, est de nouveau très 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 tonale, avec des quintes, des repères très sûrs, et on cherche autrement. Mais les compositeurs, curieusement, n'utilisent pas l'atonalité au sens des 12 notes chromatiques, etc. Alors à cette époque-là, il y a ça, et évidemment... ce film est intéressant à découvrir maintenant parce que il montre qu'il y avait une internationale. Beaucoup de pays de l'Est ont produit des films de SF, hein, notamment évidemment l'URSS.
Est-ce qu'ils ont un son différent des films américains?
Pour les sons, les effets électroniques, c'était pas ce qu'on appelle à l'époque des synthétiseurs, c'était pas les techniques de voltage control, mais en fait les sons se ressemblent de manière troublante parce que c'est est-ce que c'est parce que ces appareils sont quasiment les mêmes ou voyage, c'est des instruments finalement qui sont assez connus, ou bien alors parce qu'on a les mêmes idées de ce que doit être un son venant de l'espace. Ce son venant de l'espace d'ailleurs est décrit dans un roman qui est écrit en 1900 ou un peu avant 1900 par Herbert George Wells dans La Guerre des mondes. Il décrit le son que fait le son oscillant et continu que fait ces machines qui débarquent sur Terre dans la voilà de, et faite par les machines martiennes.
Hein. Les sons oscillants et continus, ce sont des instruments inventés à peu près à la même époque où Wells écrit ce livre. Ce sont les thérémines, les ondes Martenot, qu'on a beaucoup utilisées à l'époque.
Oui, les instruments ont été inventés peut-être pour certains d'entre eux un peu plus tard, mais on a commencé à les penser, à les imaginer comme des sortes de violons spatiaux qui auraient...
Voire des scies musicales de l'espace.
C'est la scie musicale de l'espace. D'ailleurs, la scie musicale, dont je parle à un moment donné, il y a un film qui s'appelle Vivre dans la peur, un film très très bien joué d'ailleurs par Mifune de Kurosawa, où le héros, ça se passe sur Terre, et il est japonais, il a peur de la
bombe atomique.
Et la musique, je ne sais plus si c'est de quel, je ne me rappelle plus, utilise beaucoup la scie musicale. Pour décrire cette panique, hein, cette perte des repères. Un glissement continu, hein, comme si on ne pouvait pas s'agripper à une prise facile et on faisait une chute. Et donc, un instrument banalement acoustique tel que la scie musicale, finalement, exprime la même chose sans avoir recours à des générateurs de fréquences où on peut faire varier la fréquence de manière continue. À ma connaissance, certains instruments comme le thérémine, l'onde Martenot, etc., c'est les années 20 ou 30, mais ils étaient déjà figurés. C'était lié aussi à l'utilisation de l'électricité qui s'est banalisée, évidemment, qui a commencé à être répandue à la fin du 19e siècle.
Et à l'inverse, ces sons étranges, ces sons que parfois on n'entend pas, les fameux ultrasons, permettent aux terriens de se défendre. C'est comme ça que sont attaqués les extraterrestres dans les soucoupes volantes attaques. C'est comme ça, de manière beaucoup plus drôle, que Tim Burton se débarrassera des martiens dans Mars Attacks avec du yodel.
Oui, alors ça c'est...
Le son est une arme.
Le son est une arme, voilà. Alors, effectivement, c'est une idée qu'on trouve aussi dans l'album de Hergé... l'affaire Tournesol, n'est-ce pas, les années 60, c'est vrai, et c'est un mythe poétique, mais c'est un mythe en même temps, parce que le son, en fait, à condition d'être suffisamment protégé, les oreilles ne détruit rien d'autre que des pauvres minuscules oreilles humaines, hein, ce qui est rien du tout. Il faut vraiment une énorme énergie, à ce moment-là, le son, s'il est utilisé avec une très grande énergie, évidemment, il ébranle les meubles, mais ni plus ni moins qu'une grande chaleur peut détruire, etc. Mais effectivement, le son se définit souvent dans ces films comme quelque chose d'ambigu entre la sensation, la puissance, il est évocateur de puissance, et puis nous sommes très sensibles, nous ne sommes pas trop sensibles aux limites de notre vision entre l'obscurité et la lumière, l'impression qu'il y a des absolus. Tandis que pour l'oreille, on se dit que là où je cesse d'entendre quelque chose, les chiens continuent d'entendre quelque chose, ensuite les insectes continuent d'entendre quelque chose. Il n'y a pas trois jours, c'est un mythe vivace, quoi. Quels sont les sons qu'on n'entend pas? Alors je disais, la lumière, vous pouvez appeler ça un son si vous voulez, puisque c'est une vibration. Simplement, si l'oreille humaine était équipée pour transcrire en sensation, hein, des vibrations de plusieurs millions par seconde, on appellerait ça son. C'est le symbole d'une vibration qui est une sensation tout en étant autre chose, tout en communiquant avec des sphères de l'inaudible ou du suraudible, ou etc. Peut-être parce que je crois que ce mythe vient du fait qu'on continue d'entendre les sons en dormant. Donc les sons continuent de vivre en nous et de nous influencer, et d'ailleurs de rentrer dans le rêve si on s'endort avec une radio allumée.
Vous écoutez France Culture, Plan Large, et surtout vous écoutez le son de l'espace grâce à Michel Chion. Et ceux qui ont vu 2001, l'Odyssée de l'espace, et ils sont nombreux évidemment, ont dans les yeux un ballet de satellites au rythme du beau Danube bleu. Mais avant, c'est un des raccords les plus célèbres sans doute de l'histoire du cinéma, cette os qui a été lancée dans l'air, qui tournoie, lancée par un hominidé primitif qui vient de s'en servir pour estourbir un de ses congénères. Et c'est par la magie du raccord du cinéma, cet os devient un vaisseau spatial. Mais ce qui frappe surtout, et je ne sais pas si c'était le cas à l'époque, parce que vous racontez dans votre livre, Michel Chion, votre découverte de ce film dans la salle de l'Empire en son multipiste. Bon, vous arrivez au milieu du film déjà, oui. Donc la compréhension déjà pas évidente de ce film a dû être encore plus un défi pour vous. Mais ce qui frappe encore maintenant par rapport à ce qu'on entend du space opéra aujourd'hui, c'est cette sorte de calme, de sérénité, oui, de silence même qu'il peut y avoir dans ce film.
Oui, alors effectivement, c'est un film où on entend juste pendant quelques secondes du silence pur, c'est-à-dire l'absence de tout son sortant des haut-parleurs, mais le silence est présent autrement, par le fait que les personnages humains, après la partie qu'on vient d'entendre, qui font leur apparition, hein, ce ne sont plus des singes ou une idée, ce sont des humains, souvent effectuent des actions sans parler, hein, ou quand ils parlent, sont immobiles. Donc il y a une sorte de silence d'autre part le silence c'est aussi par exemple le fait que là on entend d'ailleurs pas tout de suite le beau Danube bleu, on entend le début d'une version orchestrale dirigée par Karajan de façon très moelleuse, très énorme, enfin très très luxueuse, dans lequel il y a un trémolo de violon qui suggère, comme souvent dans la musique symphonique d'une certaine époque, la genèse même de la musique. La musique souvent commence par sa propre genèse. Hein, c'est le début de l'or du Rhin de Wagner que Malik, par exemple, Terence Malik a utilisé dans le film sur Pocahontas là. Bref, Nouveau Monde, merci beaucoup.
Nouveau Monde. Et donc Fernando Gonzo qui intervient.
Souvent, si on se dépêche de reconnaître l'aspect culturel, on rate quelque chose qui est ces quelques secondes dans lesquelles la musique est comme une vapeur qui s'est pas encore déposée, qui n'est pas encore pris forme. Et là, comme on l'a entendu, d'ailleurs, c'est bien. On a les singes, du vent qui correspond au moment où l'os flotte en l'air, et puis ce frémissement qui, pendant quelques secondes, hein, n'est rien d'autre qu'une espèce de vapeur musicale indéterminée, dont on ne sait pas ce qui va sortir. Ensuite, on a les trois notes de l'accord parfait, etc., les corps et tout. Et c'est ça qui est beau. Hein. Et comme, tout en entendant ça, on voit des étoiles, et puis des bouts de lune ou de terre, etc., puis des satellites qui, dans le scénario, d'ailleurs, sont des satellites hostiles, des satellites soviétiques ou américains, mais que le spectateur ne voit plus comme tel, ça fait silence parce qu'il y a un gouffre. Il y a un gouffre, il y a un creux absolu entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ça n'a rien à voir. Et ensuite, on découvre le premier personnage humain, il dort. Et donc le silence est présent et si on revoit le film en salle aujourd'hui, dans des bonnes conditions, on s'aperçoit qu'il y a du multipiste, mais elles sont utilisées avec beaucoup d'économie. Mais j'aime bien dire aussi quelque chose, toujours historiciser même les très grands films, et dire que le raccord de Kubrick vient, selon moi, d'un autre raccord qui, à l'époque, a beaucoup frappé, et venant d'un cinéaste populaire, etc., sur lequel il n'a pas le livre qui mérite qu'on lui consacre, c'est David Lean. David Lean fait un très beau raccord dans Laurence d'Arabie entre un plan de Peter O'Toole éteignant une allumette qu'il a allumée pour montrer qu'il est résistant à la douleur. Il la laisse brûler jusqu'au bout de son pouce et de son index. Il la souffle.
Il est très bien passé.
Et on voit le soleil qui surgit et la musique de Maurice Jarre, en l'occurrence, qui commence à frémir un peu de la même façon. Et ça, c'est du cinéma pur, c'est-à-dire c'est le raccord d'échelle, entre quelque chose de minuscule et quelque chose de gigantesque. Et donc, je crois qu'il y a ça aussi, quoi, dans ce raccord absolument extraordinaire.
Et vous inscrivez aussi ces silences, et j'engage les auditeurs à lire votre livre pour voir les 7 silences que vous conceptualisez dans ce 2001, dans une époque, et aussi celle que vous appelez le cinéma ritualisé, c'est-à-dire que c'est important, on prend son temps, on est presque dans une cérémonie à ce moment-là. 2001 va tellement frapper un peu moins à l'époque, rappelons qu'une Pauline Kael, elle va pouvoir écrire à l'époque la grande critique américaine dans Harper's Magazine,
Magazine que c'est un film qui souffre d'un manque d'imagination monumental, ce qui fait encore rêver aujourd'hui, mais ça devient un peu le maître étalon du space opéra et tout le monde va devoir se positionner par rapport à ça. Alors là, pour le coup, on n'est plus du tout dans la solennité kubrickienne. Ça fait beaucoup de bruit. C'est le début de Star Wars, le premier dans l'ordre chronologique de fabrication. On va pas se mélanger les pinceaux entre les épisodes. Et alors là, on est dans une conception du son du space opéra très, très différente que vous rattachez, Michel Chion, à la généralisation d'un procédé de diffusion du son dans les salles qui est le Dolby. On est dans les années 70. Le Dolby se généralise dans les salles et il faut occuper cet espace.
Oui, à la fin des années 70, effectivement, c'est surdéterminé par la vogue du film rock, c'est une histoire assez longue, mais j'abrège. Hein, il y a un procédé qui permet, c'est pas l'invention d'un procédé qui permettrait de multipiste, ça existait dès les années 40-50, mais qui permet de généraliser à beaucoup de salles sans faire trop de frais de réinstallation. Et des films utilisent ça, et la grande idée de Lucas et de Star Wars, c'est de le concevoir comme un film populaire, etc., dont le son est largement inspiré d'ailleurs des jeux vidéo qui commencent à se développer. Hein, et puis, contrairement à d'autres films, comme par exemple l'Ikari XBN dont on parlait tout à l'heure, instaure une séparation absolue entre l'endroit d'où la musique émet, gronde, raconte, etc., la musique de John Williams, qui est faite avec des instruments purement acoustiques, il n'y a pas un seul instrument électronique, et puis les bip-bip, qui eux appartiennent à l'univers diégétique du présent, c'est-à-dire ils sont entièrement au présent. Tout ce qu'on entend de est au présent, correspond à quelque chose qu'on voit, qui se passe, et tout ce que raconte la musique, c'est dans une sphère mythique, hein, de symboles, et c'est les fameux thèmes de John Williams, voilà. Et les sons de Ben Burtt, qui a conçu...
Designer sonore. Sons, voilà. Et on a aussi, ce qui frappe très fort dans Star Wars, on parlait de la rapidité avec laquelle passait le vaisseau inaugural d'Ikari XB1, là on a des énormes destroyers qui passent dans l'espace, mais avec un grondement sourd, le Millennium Falcon, le Faucon Millénaire, fait un bruit tout à fait extravagant, mais là on touche presque au cœur de votre travail sur le son au cinéma, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un supposé réalisme du son, on est dans un son qui fait voir.
Oui, c'est dans ce que j'appelle le rendu, c'est-à-dire à bien des égards, le son au cinéma, d'ailleurs pas seulement dans la science-fiction, mais là on est là-dedans, est utilisé non pas spécialement pour faire entendre ce qu'on entendrait si on était, mais pour faire donner une représentation par le biais du son de quelque chose qui peut être la force, la vitesse, la douleur, le froid, le chaud. Donc c'est l'expressivité. Alors, puisqu'on admet de l'image, je comprends pas toujours pas pourquoi les gens n'admettent pas du son et disent oui, c'est pas le son d'une vraie arme, etc., que ce soit dans un film. On s'en fiche.
Hein. Dans les films d'arts martiaux, dès qu'on dégaine une épée, ça fait swing, comme ça.
Voilà. Et quand les gens se tapent dessus, ça fait un grand bruit, ça fait un grand choc. Et par contre, quand les gens se battent réellement dans la réalité, ça peut ne faire aucun bruit. Et c'est ce qui explique que des choses aient lieu et les gens ne réagissent pas parce que ça fait pas de bruit. Et donc, évidemment, Lucas a... je rappelle souvent qu'il a, d'une part, il a pas transgressé, j'aime pas tellement le mot, mais disons qu'il a dit, laissons tomber la question du réalisme spatial, nos vaisseaux spatiaux, petits ou grands, rapides ou lents, vont faire des grondements et des bruits et des rugissements.
Toutes les planètes sont respirables, elles ont toutes la même gravité.
Elles sont toutes respirables, on peut se déplacer. Et puis, il va y avoir de l'effet Doppler, en pagaille. Et d'autre part, de situer ça pour se débarrasser de l'histoire humaine, il y a très longtemps, dans une autre galaxie, très lointaine. C'est-à-dire, c'est pas notre histoire, et même ce que je dis souvent, c'est que les personnages qu'on y jouait par les acteurs principaux, c'est même pas, ils se désignent même pas comme humains. C'est des personnages, voilà. Mais ils sont par contre genrés, comme on dit. Et même, il y a le père, il y a la question de la mère, etc. Mais au niveau du son, effectivement, ça a créé une vogue épique. Ça a créé une possibilité d'épique populaire, etc. Qui rompait avec le côté cérémoniel et majestueux. Mais un peu plus tard sortait Star Trek, Star Trek, pas la série, mais la première version cinéma de Star Trek, c'est Robert Wise qui a dirigé. Et là, on est complètement dans le cérémoniel. Et c'est majestueux, c'est, voilà, c'est pompeux. Et c'est pas mal d'ailleurs. Et vous savez, il y a eu 12 ou 13 Star Trek à l'écran. C'est considérable. C'est populaire sans être culte. Enfin, je sais pas comment dire.
Chez certains, c'est tout à fait culte.
C'est tout à fait culte. Oui.
Alors, de même que Star Wars s'était positionné, comme on l'a dit, par rapport à 2001, certains films vont se positionner par rapport à Star Wars.
It's very bizarre. All right. Moving on to second position.
What is it? Let's get out of here.
It's not this far. We must go on. We have to go on. Will you say that again?
As you can see, this I don't have to describe.
I'm going back to the console.
On est au début d'Alien et on est déjà très angoissé. Oui. 1979, l'équipe du Nostromo explore cette planète très hostile d'où provient un mystérieux message. Ils auraient mieux fait de pas y aller, mais oui. Bon. Et alors là, on a un effet typique d'abord dans ce son qui a une texture là extraordinaire, très 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 complexe, de ce que vous appelez l'effet on the air, Michel Chion. Qu'est-ce que c'est alors ?
C'est la convention qui d'ailleurs peut être utilisée aussi dans des films qui se passent sur Terre, c'est que ce qui passe par les ondes, des ondes hertziennes en l'occurrence, qui passent par une radio, peut être entendu par le spectateur comme s'il était branché directement sur la radio. Il n'entend pas forcément ce qu'on entend dans l'atmosphère, mais il entend comme s'il avait une radio incorporée, un récepteur radio incorporé. Donc là, dans cette scène, nous entendons à la fois ce qu'il y a à l'intérieur du vaisseau, enfin de la navette restée dans l'espace et de ceux qui descendent. Des trois personnes qui descendent sur la planète, et nous entendons ce qu'ils se disent, et on est dans une position incertaine, on n'est pas sur la planète, mais en même temps on entend cette sur la planète, et la grande idée aussi de cette partie, où on entend aussi des effluves de la musique de Jerry Goldsmith, c'est que la communication hertzienne fonctionne mal.
Ça, c'est un parasite.
C'est une grande idée, c'est pour créer un inconfort. C'est l'inconfort. C'est comme si là, la radio, puisque nous sommes à la radio, ça marche mal, le récepteur marche mal, on capte mal. Et c'est cette espèce de drame qu'on voit dans les trains, dans lesquels les gens sont avec leur portable, disent, je te capte pas bien, attends, je vais me déplacer, etc. Enfin, c'est ça, la puissance 10, etc. C'est la même situation très angoissante de la liaison, plus ou moins perturbée. Et il y a un montage son extrêmement dense. Et selon moi, ce vérisme du son où les machines sont des vraies machines qui sont susceptibles donc de mal fonctionner est lié à la culture. C'est un film réalisé et mixé en Grande-Bretagne, à la culture du documentaire et du film social, très très importante dans le cinéma anglais, c'est-à-dire c'est réel, les machines sont réelles. C'est quand même le pays où on a fait des films, ils montrent bien les usines, ce que c'est qu'une usine, ce que c'est qu'une machine, ce que c'est que le travail, ce que c'est que... C'est un film social d'ailleurs, il y a des distinctions de classe qu'on n'a pas dans d'autres films.
Oui, que le lieutenant Ripley qui passe d'un espace à l'autre, oui, l'espace sinon, du haut et l'espace du bas.
Il y a les soutiers, il y a le chef de bord et puis il y a les tensions de classe.
Ouais. Il y a aussi des tensions, des tensions du désir. Hein, c'est le grand film du refoulé sexuel et de son retour. Il y a une utilisation assez étrange de la musique de Jerry Goldsmith. On sait que les rapports entre musiciens et cinéastes sont souvent compliqués. On leur commande une musique, on l'utilise pas, on en coupe des bouts. Et je crois savoir que Ridley Scott a réutilisé des musiques de Goldsmith qu'il n'avait pas du tout prévues pour ce film, qui sont celles de Freud, Passion secrète, le film de John Huston, voilà. Qui est une manière de signifier la dimension très psychanalytique du film.
Oui, alors je ne sais pas si c'est... Oui, effectivement, j'ai lu ça. Alors moi, ça fait une éternité que je n'ai pas vu Forêt de Passion Secrète. Et puis, comme vous savez, à la fin, on entend une musique d'un compositeur dont j'ai oublié le nom, qui donne un climat d'apaisement féerique quand Ripley est dans telle la Belle au Bois Dormant, Sigourney Weaver dans son berceau, dans son lit spatial. Mais le film fonctionne, voilà. C'est le résultat qui compte. Et effectivement, l'histoire de la musique au cinéma est pleine d'histoires comme ça. Et moi, je dis, il y a l'aspect humain des choses. J'espère que Jerry Goldsmith était bien payé, etc. Et il y a l'aspect donc il n'a pas été trop lésé. Mais le film est une grande réussite, hein, avec effectivement ses difficultés ou ses aléas de réalisation et ses choix, etc. Mais quant à l'aspect refoulé, moi je parle en termes lacaniens de forclusion, c'est-à-dire que c'est pas qu'il refoule la sexualité, c'est que on a affaire à des personnages qui sont habillés unisexes, hein, je dis bien unisexes, hein, et pas de gender fluid, parce que si on parle de la question, c'est très intéressant, il y a des périodes unisexes sans le savoir, c'est-à-dire on se posait pas la question, hein, les gens s'habillaient tous de la même façon.
On s'appelle par son nom de famille aussi.
Voilà, les jeans étaient les mêmes pour les filles et les garçons, etc. Et ils s'appellent tous par le nom de famille, et donc Ripley n'aura un prénom qui est Hélène qu'au deuxième ou troisième épisode, n'est-ce pas ? Et donc, ils s'adressent professionnellement les uns aux autres, et donc le sexe, le genre et la possibilité de rapport sexuel, après tout, dans un vaisseau spatial, on a beaucoup de temps, et ça, n'est jamais évoqué, ni verbalisé, ni montré. Donc, ce qu'on appelle la forclusion, c'est quelque chose qui est évacué même du champ symbolique. C'était la théorie de la psychose pour Lacan. Et donc, ça fait retour sous forme hallucinatoire dans le réel. Et ça, ce n'est une magnifique illustration. Plusieurs films des années 70, d'ailleurs, le traduit, c'est-à-dire l'organique, le sexuel, qui est non symbolisé, hein, dans le discours des personnages, leur rapport les uns aux autres, fait retour sous des formes gluantes, agressives, choquantes et troublantes, et en même temps érotiques.
Extrêmement érotique et troublante quand c'est Giger qui fait le design, évidemment, de la créature
Le striptease de Sigourney Weaver, striptease commencé de Sigourney Weaver à la fin du film, quand même.
We've got years of messages stored.
Cooper. Messages span 23 years.
I play from the beginning.
Hey, Dad. Checking in. And I finished second in school. This girl is still giving me C's, so pulled me down, but you know, second's not bad. Grandpa attended ceremony. I met another girl, Dad. I really think this is the one. Her name's Lois. It's her right there. Murphy stole Grandpa's car. She crashed it. She's okay, though. Hey, Dad.
Look at this. You're a grandpa. His name's Jesse. I kind of wanted to call him Coop, but Lois says, maybe next time. But Donald says he's already earned the great part, so we just leave it at that.
Oh, dear.
Vous écoutez France Culture, plan large sur le Space Opera et ses sons dans l'espace avec Michel Chion. On aura reconnu un extrait d'Interstellar, Christopher Nolan, en 2014. Le temps d'une mission sur une planète aqueuse avec des vagues aussi hautes qu'un monolithe kubrickien. 23 ans sont passés en une journée. Et évidemment, il y a une foule de messages à rattraper quand on rentre sur le vaisseau. Ce qui est très beau dans cette scène, plus que l'émotion parfois rien forcée dans le jeu des comédiens, ce sont deux choses, à mon sens. Ce sont ces lumières qui passent sur le visage de Matthew McConaughey, puisqu'on est en orbital, le soleil, enfin l'étoile locale éclaire régulièrement le visage du héros. Et puis il y a cette musique de Hans Zimmer qu'on entend, et c'est le retour, là vous l'analysez très bien dans votre livre, Michel Chion, c'est le retour de la dominante.
Et c'est même son affirmation, parce que dans certains cas, par exemple dans certaines musiques tonales, hein, c'est la plus grande partie des musiques qu'on entend dans les films, la dominante, malgré son nom, amène à la tonique, c'est-à-dire qu'elle est faite pour conclure, on s'installe pas dessus. comme ce comment s'installe. C'est une note, donc c'est un sol quand on est en do, par exemple. Et la spécificité de la musique, de plusieurs musiques d'ailleurs de space opéra récemment, c'est de camper dans cette espèce de situation en vol qui suppose quand même qu'il y a un sol, qu'il y a une gravité. Hein, qui est quelque chose sur lequel on puisse retomber. Ce n'est pas l'atonalisme sans repère.
Qu'on entendait au début d'émission.
On ne sait pas à quoi s'accrocher. Hein, cette paroi lisse hein, qu'on a soit dans les sons continus, chute ou montée infinie, ou l'atonalisme, les 12 degrés chromatiques entre un do et un do. Et c'est quelque chose qui est très, très, très tonal, mais en même temps, la dominante... en fait, son nom est, en français fausse un peu ce que ça veut dire. On a l'impression que c'est la note qui domine. Non, c'est la tonique, la note de référence hein, du ton. Là, on est comme dans une situation instable, mais dans un univers repéré. Hein, repéré au niveau de l'oreille et au niveau du ton. Et alors moi, j'aime beaucoup tout le film, y compris le côté très joué, très éloquent du jeu des acteurs, notamment de Matthew McConaughey, je ne sais pas comment on prononce. Mais je trouve que Zimmer a trouvé, et son équipe, parce qu'on dit que c'est Remote Control, son boîte, c'est 50 personnes qui travaillent dans un souterrain ou qui sous-traitent, ça c'est une sorte... De mythe, hein,
les gens noirs de Hans Zimmer.
Voilà, Hans Zimmer. Mais je trouve que le résultat est magnifique. Voilà. Il y a l'orgue qui est utilisé dans ce film et qui est dont on utilise la signification religieuse, n'est-ce pas? Et puis évidemment, comme je l'ai dit, le tournoiement, c'est-à-dire que Nolan a tenu à tourner avec ce qu'on appelle les practical effects, c'est-à-dire le faire construire le plus possible de vaisseaux spatiaux ou de maquettes pour de vrai.
Comme Kubrick.
Et comme Kubrick. Mais à l'époque de Kubrick, on n'avait pas le choix de l'image numérique, tandis que maintenant on l'a, et des vaisseaux spatiaux numériques qui sont plus des maquettes qu'on construit physiquement, mais des choses, comme on a commencé dans les années 80. Voilà. Et puis, donc, tout tourne, donc de même qu'on tourne autour de la note dite dominante, les ombres tournent et les personnages sont une sorte d'état de révolution, mais révolution pas au sens de sans dessous-dessous, mais au sens de tourner. Il y a quelque chose de cosmique, bien sûr. Et ce qui nous rappelle, effectivement, que les mouvements des astres pendant très longtemps, et même encore dans l'imaginaire, dans les mythes, continue d'être lié et perçu comme de la musique, puisqu'il y a des sortes d'attractions, des orbes, des sphères, des ellipses qui lient des choses qui sont séparées à d'immenses distances dans l'espace, mais la beauté de leurs courbes, etc. C'est la musique, hein. La musique est un espace. Entre un do et un do, on peut mettre un do et un do à l'octave supérieure, on peut mettre un univers.
C'est les fameuses l'harmonie des sphères, la musique des sphères, hein, qui remonte à Kepler, hein, si je ne me...
Voilà, c'est ça.
Si je me trompe pas, juste pour terminer, Michel Chion, et ce film Interstellar, et ça fait partie donc des films des space opéras récents, hein, ceux des années 2010, et vous notez à la fois que quelque chose a changé dans la conception qu'on a de l'univers avec les évolutions de la pensée scientifique dessus. On n'est plus dans un univers infini, on serait dans un univers qui serait recourbé, fini, bouclé sur lui-même, mais surtout vous parliez de la gravité que suppose cette dominante, cette nouvelle façon de voir la musique, c'est la Terre aussi qu'on ne quitte plus. Et ça, vous le notez très bien dans votre livre, dans des films aussi divers que Seul sur Mars, Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 et puis Gravity, ce film que personnellement j'adore tout à fait, on fait écouter aux personnages de la musique populaire américaine, mais pas celle du moment, déjà un peu datée, et on est à la fois dans l'attachement à la Terre, mélancolique, nostalgique, mais aussi dans une réalité qui est celle de la diffusion des sons humains dans l'espace.
Tout à fait, parce qu'on peut se figurer que les sons qu'on envoie par ondes hertziennes, finalement... tout en s'affaiblissant, ils peuvent aller très 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 loin. C'était l'idée d'un film qui est pas génial, mais qui est chaleureux et des belles choses, s'appelle Contact de Zemeckis, dans lequel, dans un travelling arrière virtuel, évidemment, fait par image de synthèse, on s'éloigne de la Terre, on s'éloigne de la Terre, et tout en s'éloignant de la Terre, on entend des ondes hertziennes qui proviennent de régions du temps de plus en plus lointains. C'est-à-dire qu'on entend ensuite le discours de Hitler transmis par la télévision aux Jeux Olympiques de 36, etc., etc. Et donc tout ça continue de tourner en orbite autour de nous, de la même façon que si on va sur YouTube aujourd'hui, en fait, toute la culture du monde, et il y a des radios nostalgie, il y a des, on va dans certains endroits où moi je réentends des tubes des années 70, Daniel Guichard et tout ça est en rotation continue. Puis vous savez le goût actuel pour les vinyles où on voit bien cette, on fait retourner, hein, et donc parfois l'objet un peu magique c'est la cassette, l'audio cassette, et dans les Gardiens de la Galaxie dont j'aime bien les deux premiers épisodes, etc. Un des nombreuses films Marvel sorti, le personnage est très attaché à des cassettes que lui a donné sa maman, une compile copiée sur cassette, et ces bonnes vieilles cassettes qui redeviennent à la mode, dans l'avant-garde, c'est très chic d'éditer des cassettes, où on voit deux plateaux qui tournent, l'un débiteur et l'autre récepteur, mais enformés dans une cassette. Moi, j'ai travaillé dans cette maison même avec des magnétophones, et effectivement, ce support qui se...
entraîne l'autre.
L'un entraîne l'autre, et l'un se vide tandis que l'autre se remplit, et ainsi de suite, et puis on retourne la cassette, et c'est reparti. Effectivement, on a cette nostalgie qui est assumée, c'est-à-dire, c'est pas le futur, c'est merveilleux, etc. C'est pas non plus le futur est impossible. Quand même, on a affaire souvent à des films optimistes. Mais il est permis d'être nostalgique. Lord, I'm singing you this message. Asking you to send me down another angel. I've been looking for a long time for someone to get her off my mind. But you know, Lord, angels are hard to find. I want.
Merci Michel Chion, on se quitte sur une chanson précisément, la chanson qu'écoute en boucle dans son casque d'astronaute le commandant Kowalski alias George Clooney au début de Gravity. Angels are hard to find de Hank Williams. Les anges sont difficiles à trouver mais vos livres eux sont très faciles à se procurer. Des sons dans l'espace à l'écoute du Space Opera, c'est édité chez Capricci qui édite d'ailleurs aussi en DVD ce film pure saga visionnaire comme disait Joe Dante qui est Ikari XB1 de Yindrich Polak. Votre essai sur les film de science-fiction, c'est au cahier du cinéma. Quant à votre somme, passionnante vraiment sur la musique, au cinéma, dans sa version refondue et complétée, c'est chez Fayard. Si certains veulent en apprendre un peu plus directement auprès de vous, eh bien, ils peuvent déjà aller sur votre site internet, aussi complet qu'érudit, michelchion.com. Et puis, je vous signale encore un livre que vous connaissez peut-être, Michel Chion, Chant contre Chant, C-H-A-N-T à chaque fois. C'est le livre posthume d'un sociologue du langage, Pierre Skye, dont l'essentiel du travail porté sur les usages de la chanson contemporaine, notamment dans le cinéma. Et alors le chant contre chant, c'est quand dans un film se superposent deux types de voix dans la bande son. Il y a celle d'un artiste qu'on entend chanter par le biais d'une platine, d'une radio, d'un jukebox, tout ce que vous voulez, et se superpose à ça la voix d'un ou de plusieurs personnages qui reprennent simultanément la même chanson, chantant par-dessus la chanson. Il s'appuie en particulier sur l'œuvre de Nanni Moretti, qui est très friande de ce procédé qui traverse en fait toute l'histoire du cinéma parlant, et comme vous Michel Chion, il s'appuie aussi bien sur le cinéma d'auteur que sur le cinéma populaire. On y contre-chante par exemple aussi bien dans Casablanca que dans Les Gardiens de la Galaxie dont vous parliez tout à l'heure. Elle ne chante pas beaucoup il me semble, mais elle danse et elle se bat énormément. Elle produit quel son, Uma Thurman?
You and I have unfinished business.
Baby, you ain't kidding. Huh. Plan A taught you the five-point palm exploding heart technique.
Of course he did.
Why didn't you tell me?
I don't know.
You're not a bad person. You're a terrific person. You're my favorite person. But every once in a while, you can be a real cunt.
Mais non, tu n'es pas mauvaise, tu es ma personne préférée, mais de temps en temps, tu peux être une vraie salope. Un compliment à la Tarantino délivré avant d'expirer par le Bill qu'il s'agit de tuer tout au long des deux épisodes de Kill Bill. Et la destinataire, c'est bien sûr Beatrix Kiddo, Uma Thurman, dans sa combinaison jaune à liseré noir empruntée à Bruce Lee. Combinaison qui l'a fait entrer définitivement dans le panthéon de la pop culture du millénaire commençant. C'était il y a 15 ans, en 2004. Après s'être fait récemment très salement refaire le portrait par Matt Dillon dans le dernier Lars von Trier, The House That Jack Built, Uma Thurman est de retour dans une série Netflix Chambers et elle fait surtout la couverture de ce film, Fernando Ganzo.
Oui, et quand je crois que quand on pense à Uma Thurman, je visualise toujours quelque chose qui dépasse un peu, que ce soit sa taille de mannequin, son émotion très forte, sa force, même sa séduction, et s'il y avait un geste comme ça qui revenait, qui pourrait la définir comme actrice, c'est pour moi ce regard baissé et tremblant qu'on voit beaucoup dans Kill Bill, comme incapable de retenir sa colère, sa rage, sa peine, son amour, sa perversité, aussi sa drôlerie, son humour, et même parfois tout ça à la fois, comme si elle était prête à entrer en ébullition et qu'elle voulait nous protéger en même temps de cette explosion. Et sa première apparition au cinéma, c'est assez drôle, par ailleurs Moncilovitch, il raccordera ça aussi avec Schwarzenegger, mais c'est vrai que c'est Vénus qui sort du coquillage dans les aventures du baron de Munchausen, le film de Terry Gilliam, et on voit pas tellement là une espèce de créature de séduction, comme l'irruption des nouvelles formes, des nouvelles créatures venues d'un autre monde, comme si ses origines suédoises charriaient la nature d'un cinéma lointain. Et donc, c'est vrai que, pas comme Schwarzenegger, mais ça fait quand même penser à l'image de la première blonde Vénus, Marlène Dietrich, parce que Uma Thurman dévoilait à ce moment-là, je trouve, un nouveau corps de cinéma, le seul corps de sa génération à pouvoir se décliner en mille possibles, le seul qui semblait avoir plutôt besoin d'être retenu que d'être libéré. Et tout de suite, les cinéastes, pour ça, ont senti le besoin de déguiser ce corps, de le faire parcourir toutes les époques, des liaisons dangereuses à Gattaca, par exemple. Et c'est peut-être la seule actrice issue de cet Hollywood étrange et mutation des années 90 à avoir créé, je trouve, des personnages plus forts que sa propre image. La seule à avoir accepté à ce point le masque, le déguisement. À un moment donné, elle est devenue presque une icône de la culture pop, et on pouvait croiser dans des soirées Halloween des gens déguisés en Mia Wallace, donc son personnage en Pulp Fiction, ou effectivement Black Mamba, donc le pseudonyme, ou The Bride, aussi sa double nature, hein, dans Kill Bill, là où personne, je crois, on croisait personne dans les soirées à se déguiser en Julia Roberts ou en Meg Ryan, pourtant des actrices plus reconnue, alors qu'elle, par exemple, dans MacDoug and Glory, elle prouvait aussi qu'elle pouvait être dans ce registre-là excellente, mais elle avait une espèce de modestie d'actrice qui était rare, je trouve, dans cet star system des années 90, un peu maladif, un peu au bord du gouffre, et qui était nécessaire pour créer des héroïnes plus grandes qu'elle-même. Et c'est pour ça qu'il semblait presque naturel qu'elle était choisie pour redonner vie, sans aucun succès, il faut le dire, à l'Emma Peel des chapeaux mêlants et bottes de cuir, parce que seule Uma Thurman pouvait à ce point jouer avec les textures des costumes choisis pour transformer son corps, avec ses mouvements et sa façon d'occuper un espace. Les échecs, c'est pas une chose rare dans sa carrière. Il y a un encore plus fort qui est Poison Ivy, son personnage dans Batman et Robin. Mais voir ce film, penser à ce film, pourrait nous faire penser à un espèce de what if, comme on dit maintenant. Et ce qu'elle aurait pu faire... Hein, ce qu'elle aurait pu faire Uma Thurman si cet âge actuel du cinéma des super-héros, voire des super-héroïnes, était parvenu 15 ans plus tôt. Je crois qu'on peut même imaginer une porte à une autre histoire du cinéma contemporain possible, parce qu'à la voir courir et s'ébattre, par exemple, dans Kill Bill, à sentir sa rage prête à exploser, cette souffrance qu'elle semble avoir et contenir, et dont elle ne peut faire catharsis que dans l'action la plus extrême et burlesque, j'ai presque envie de la voir comme un possible équivalent féminin de ce que Tom Cruise est au cinéma d'action, c'est-à-dire la star au centre de la mise en scène, traversant un film après l'autre comme un éclair. Et Tarantino semble pourtant faire partie des choses, malgré ses échecs, ce qu'il fait avec Tarantino, fait partie des choses que notre génération a vu naître, presque de nulle part, et en revanche, rester, je crois, on peut imaginer, dans la tête des générations à venir. Et peu importe finalement la place que Maturman occupe dans le cinéma, car c'est le cinéma lui-même qui est devenu un peu Uma Thurman, c'est-à-dire que Thurman et Tarantino ont trouvé la réponse, je crois, à la question « qu'est-ce qui sera le cinéma dans quelques années à cette époque-là » et la réponse était « une femme et une épée ». Et cette femme, peu importe l'actrice qui l'interprète dans chaque nouveau film, dans chaque nouvelle déclination de cette nouvelle image qui va repousser les limites de « qu'est-ce qu'une comédienne », parce que cette femme, pour moi, elle sera toujours Uma Thurman. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe.
Un plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Clément Daté. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Massimo Bellini. Chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.